15h23 minutes. Ben écoutez, il y a une nouvelle étude qui est menée par des chercheurs, qui a été menée par des chercheurs du CHU Sainte-Justine, qui met en garde contre une forte consommation d'alcool dès la première semaine de grossesse. Vous savez, les spécialistes là, le disent depuis des années, c'est mieux que les femmes enceintes ne consomment pas d'alcool. Mais là, ce qui ressort de cette étude-là, c'est que dès la première semaine de grossesse, ben ça peut être un problème. On en parle avec Serge McGrath, il est chercheur au CHU Sainte-Justine et professeur au département d'obstétrique gynécologie de l'Université de Montréal. Professeur McGrath, bonjour.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Ça va bien, vous-même. Écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté, mais vous avez découvert que ça va pas bien si on consomme dès la conception.
Exact. Nous, ce qu'on démontre, là, c'est vraiment que lorsque l'ovule est fécondé, même avant là, que donc l'embryon commence à se développer, avant qu'il s'implante ou qu'il s'attache dans l'utérus de la mère, l'embryon est composé d'un petit amas de cellules et notre étude démontre que la consommation élevée d'alcool pendant cette période va affecter l'embryon développement et va causer un nombre d'anomalies augmentantes là, dans le cerveau en développement. Donc, le cerveau va avoir beaucoup plus tendance à avoir des anomalies.
Donc, si je comprends bien, là, je me rappelle de mes cours de bio, professeur oui. McGrath, là, la première semaine, bien souvent, la mère ne sait pas qu'elle porte un embryon.
Et tout à fait. Les tests, on peut pas détecter avec les tests qu'on a maintenant pour de grossesse. Et environ, c'est entre 40 et 50 des femmes là qui ne planifient même pas être enceintes. Donc, il y a des grossesses qui sont planifiées. Donc là, les mères peuvent ils peuvent faire attention à qu'est-ce qu'elles mangent ou à qu'est-ce qu'elles boivent. Mais comme je disais, environ la moitié des grossesses là, sont non planifiées. Donc, ça peut être inquiétant.
OK. Vous parlez là des effets néfastes d'une consommation excessive d'alcool durant la première semaine de grossesse, Serge McGrath. C'est quoi une consommation excessive?
Donc, nous, ce qu'on étudie là avec notre modèle préclinique, là, donc c'est un modèle de souris qu'on avait, donc c'est un modèle où est-ce que c'est ce qu'on appelle une consommation binge, donc qui est excessive pour une femme, c'est environ 5 consommations en dedans de 2 heures.
Donc, un verre de vin, on est correct.
Nous, notre étude portait pas sur un verre de vin. Notre étude portait sur vraiment une consommation excessive. Il y a d'autres études à travers le développement là, qui ont démontré avec des différentes doses, mais ça reste que il y a d'autres facteurs hein, que la boisson. Donc, chez la mère, par exemple, il y a l'âge, il y a la nutrition, il y a la génétique de la femme. Donc, c'est pour ça qu'on parle de ne pas boire du tout pour être certain qu'il y a rien qui va se passer. Mais oui.
Non, continue.
Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, dans notre étude, là, il y a 20% des embryons qui montraient une anomalie au cerveau. Par contre, si on regarde au niveau moléculaire dans les embryons qui n'en avaient pas de malformation au cerveau, donc lorsqu'on regarde au niveau de la couche là, qui régule l'information des gènes, donc ce qu'on appelle l'épigénome, donc l'épigénome était dérégulé. Ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a ces petites perturbations-là au niveau de la régulation des gènes, pendant le développement, mais ce qui peut arriver, c'est qu'on va empêcher le cerveau de se développer à son plein potentiel. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de dommages, et ça, ça prend des études sur de longues périodes, parce que on peut avoir des petites malformations ou des petits dommages au niveau moléculaire, mais qui vont se refléter là, à partir là, que ce soit au niveau de l'adolescence ou même plus tard dans le développement.
Les troubles qu'on peut soupçonner chez les enfants dont la mère aurait bu, disons, de façon excessive sans savoir oui. qu'elle était enceinte, on peut soupçonner que c'est quoi ces troubles-là?
Donc, il y a les troubles les plus sévères, là, ce qu'on appelle le syndrome d'alcoolisation fœtale, ça, c'est vraiment des déficits neurologiques souvent sévères, des problèmes de comportement, et aussi avec certains traits faciaux là, qui sont vraiment identifiables. Par contre, ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, ça, c'est un trouble qu'on appelle un trouble invisible. Donc, la plupart des enfants vont pas avoir de caractéristiques physiques, mais ils vont avoir, par exemple, des problèmes d'attention, de mémoire, de comportement, d'apprentissage. Donc, c'est très difficile d'avoir un diagnostic pour ça. Il faut une panoplie, là, que ce soit des médecins, des neurologues. Donc, il va avoir vraiment une étude approfondie avant qu'on est capable de déterminer que c'est vraiment un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale au lieu d'être, par exemple, une autre maladie, là, où est-ce que des fois on a ce qu'on appelle là, des chevauchements au niveau certains de ces troubles-là.
Donc, votre conseil, c'est quoi?
Ben mon conseil, c'est pas de boire du tout, surtout si on s'attend d'avoir un enfant. Donc, l'important, c'est vraiment, c'est plate à dire, mais c'est toujours les mêmes choses. Hein. C'est bonne nutrition, exercice éviter la consommation d'alcool, de drogue et de cigarettes, parce qu'il peut avoir aussi là, des effets additionnels. Hein, si on, par exemple, si on consomme de l'alcool et on a une mauvaise nutrition et qu'on prend, par exemple, de la drogue, donc ça va être un effet qui va être encore plus amplifié.
OK, je vous amène sur un terrain connexe. Là, vous, on le mentionnait tantôt, 40% des grossesses n'étaient pas planifiées, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas désiré. Mais une femme qui découvre qu'elle est enceinte là, après quelques semaines, qui se souvient que après la conception, elle a pris, disons, une cuite solide, elle a pris une brosse, comme on dit à Québécois. Qu'est-ce que vous recommandez?
En réalité, ça, c'est très difficile à répondre, là, mais dans les études, ce qui est démontré, c'est que environ une femme sur 67 qui a pris vraiment là, une consommation excessive, donc il va avoir un bébé sur 67, d'après une étude là, de quelques années passées, qui vont démontrer des troubles sévères d'alcoolisation fœtale. Donc, ça ne veut pas dire que l'embryon va être nécessairement affecté à son plus haut niveau, mais il peut avoir un genre de range là, d'effet. Donc, l'impact il peut être à différents niveaux, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'études ou d'indications comment qu'on pourrait contrer. Ça, c'est des choses que nous, on espère étudier dans le labo et qu'on étudie également en parallèle, là, de voir est-ce qu'on est capable de contrer justement là, cet impact à l'alcool. Là.
Avec ce que vous savez, là, faisons un peu de... On va parler concrètement. Là, avec ce que vous savez, professeur McGraw, si une femme proche de vous allait vous voir et disait « Écoutez, j'ai vraiment viré une grosse brosse, là. » autour de la conception, est-ce que je devrais me faire avorter? C'est quoi votre réponse?
Ma réponse, ça va être de lui expliquer c'est quoi les faits, c'est qu'est-ce qu'on connaît, et peut-être l'accompagner dans sa décision, mais je peux pas prendre une décision pour elle. Là. C'est un peu le même principe des parents qui ont fait des tests génétiques et qui ont un enfant, par exemple, qui va être trisomique et qui décide de le garder ou bien d'arrêter la grossesse. Ça reste des choix personnels. Et c'est très difficile à ce niveau-là, ou même au niveau des parents, de prendre ce genre de décision-là.
OK, je vous amène sur un autre terrain, le connexe, professeur McGraw. Oui. Ça, c'est pour la consommation des mères. Parfait. Les pères, là, les pères qui prennent une brosse, puis ce soir-là, conçoivent un enfant avec leur conjointe, ou pas leur conjointe, est-ce que ça a un effet sur la qualité des spermatozoïdes, disons, le fait qu'on a pris une cuite?
Il y a beaucoup moins d'études au niveau de l'homme. Par contre, ce que l'on sait, parce que la problématique, ben c'est pas une problématique, mais par exemple, la production des spermatozoïdes chez l'homme, ça dure sur environ 74 jours. Donc, c'est le danger est surtout là pour les personnes ou les hommes qui ont des consommations chroniques d'alcool. Parce que là, tu vas avoir des micro-attaques ou des attaques là au niveau, justement, de leur production de spermatozoïdes. Et ce qui est démontré d'après les études, même chose, les études précliniques démontrent que les pères qui ont des consommations d'alcool chroniques vont avoir des problèmes au niveau du développement embryonnaire de leur bébé. Donc, c'est pas mieux. Pour les hommes qui s'attendent ou les couples qui s'attendent d'avoir des enfants, l'abstinence au niveau de l'alcool là, est à recommander pour les deux parents.
Donc, pour les gars aussi?
Oui, pour les gars aussi.
OK. Ben, écoutez, message aux hommes aussi. Là, l'alcool, la qualité, disons, du fœtus, des embryons, ça dépend aussi de vous. Je veux qu'on parle de vaccination, 30 secondes, je vous amène complètement ailleurs. Là. Vaccination, je sais qu'il y a eu des inquiétudes des résistants chez les femmes enceintes et aussi les femmes qui allaitent là, à se faire vacciner contre la COVID par peur qu'il puisse avoir des conséquences sur le bébé. En l'état actuel des choses, qu'est-ce que la science nous dit?
La science nous dit, pour l'instant, avec les études qui sont sorties, si la mère n'a pas de conditions qui l'empêchent elle-même d'avoir le vaccin, c'est beaucoup plus... le virus va être beaucoup plus susceptible à endommager, par exemple, le placenta que le vaccin. Donc, le vaccin, pour l'instant, est recommandé pour les femmes enceintes. Et même si je suis pas spécialiste sur le domaine, là, d'après ce que j'ai vu dans les études, il y a aucun problème là, si il n'y a pas de conditions particulières pour la mère.
Merci beaucoup, professeur McGraw. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Salut, c'était Serge McGraw, professeur et chercheur en obstétrique. Ben, vous l'avez entendu. Catherine, t'as roulé des yeux quelques moments dans l'entrevue.
Oui, dans mon temps, j'ai quand même mis au monde une jeune fille il y a 18 ans de ça, presque 19. Puis les médecins me disaient un verre de rouge par semaine, il n'y en a pas de problème. Mais tu sais, j'aurais aimé ça qu'on me dise, buvez juste donc pas, madame. T'sais.
Mais ça, c'est facile. C'est facile quand tu planifies une grossesse.
Oui, mais elle était pas planifiée, la mienne.
Il y en a une puis deux des grossesses non planifiées.
Absolument.
Il y a des beaux accidents qui arrivent.
Je suis comme contente de voir que ma fille est en santé, mais mon Dieu, que je m'en serais voulu si...
Mais on savait pas ça à cette époque-là.
Ben non, je le sais, mais ça me fascine d'entendre
nous,
ça maintenant.
Nos parents.
Ben oui.
Puis ben on s'entend. Et les parents de nos parents, entre vous autres puis moi, il y avait zéro étude. Fait que le monde prenait un verre puis c'était ça. Puis on est-tu plus débile? Bah, pas tant.
Ben, écoute. En tout cas, parle pour toi.
Je parle pour moi.
Il m'a quand même fait du bien, ce petit verre de rouge à chaque semaine.
Ouais. 15h34.